Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Imaginez la bande-son idéale de la vie rêvée. Avec des chansons françaises à l'aura internationale, puisque reprises par Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Dean Martin, et réinventées par Thomas Dutronc dans un album qui leur insuffle des couleurs nouvelles, en fait, lounge, cool, funky. Voilà, Thomas Dutronc en duo ou en trio, avec les plus grandes stars du jazz, du rock, du punk ou de la pop, de Iggy Pop à Tiana Krall. Bref, cet album est un cadeau, un délice, une consolation dans ce monde cruel. Il a pour titre l'album Frenchie, il est sorti hier, et Thomas Dutronc nous annonce deux concerts à la Cigale à Paris les 2 et 3 octobre, en plus d'une tournée bien sûr.
Europe 1.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas Dutronc.
Je ne vais pas parler parce que là c'était tellement bien, tout ce que je peux dire va m'enfoncer. Là, vous avez dit tout ce qu'il fallait savoir
sur le
disque.
Je vais me taire. Juste après
à
vous
bientôt,
avoir seulement demandé, Thomas Dutronc, vous chantez depuis 13 ans. Frenchie est votre 4e album et pourtant vous confiez « Je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureux en studio ». Alors j'imagine bien sûr que Iggy Pop, Diana Krall, Stacey Kent ou Jeff Goldblum, ils sont pour quelque chose, mais au-delà de ça, c'est vraiment un cortège de chansons très très particulières que vous avez choisi de faire revivre.
Bah, c'est parti, je vous raconte comment est partie la genèse, n'est-ce pas, de ce projet. Bon, c'est pas une bible hein, déjà, c'est pas... mais en fait on avait juste envie de voyager, on avait envie de jouer notre musique dans d'autres pays que les pays francophones.
Ouais.
Et là on a réfléchi, on avait envie d'essayer de tourner aux États-Unis, d'essayer d'aller au Japon, en Allemagne, en Angleterre, changer un petit peu d'horizon.
Alors Thomas Dutronc, ce nouvel album, qui est on va dire, la victoire des heures bleues et des French lovers d'hier et d'aujourd'hui, ce nouvel album, il s'ouvre sur un trio inattendu, grand moment de sensualité qui unit en fait le timbre caverneux du pape des punks, Iggy Pop, à la voix magique de Diana Krall et à la vôtre. Vous avez enregistré à Miami, la séance a duré, paraît-il, en tout et pour tout 3 heures, et Iggy Pop est reparti sous un soleil somptueux, torse nu, au volant de sa Rolls blanche décapotable.
Vous savez tout.
Voilà, en fait, vous étiez dans le film.
C'était assez génial. Ça s'est super bien passé, quoi. Ça a été un petit nuage. Ils étaient vraiment très décontractés. Moi aussi, finalement, je me suis régalé. Il suffisait de saucissonner le morceau. On se sentait bien. Dès le début, c'était sympa, de toute façon, parce que quand Diana Krall a écouté le morceau, moi, j'étais en Corse. Et elle m'a envoyé un mail en disant qu'elle aimait beaucoup le morceau et qu'elle voulait me parler au téléphone et tout. Donc, je l'ai appelé, j'ai fermé tout le monde. J'ai dit à tous les copains, pas de bruit, j'appelle Diana Krall. Et là, elle m'a fait plein de compliments du titre en disant c'est le tempo parfait, j'adore la basse, j'adore le solo de guitare, c'est super. Et puis après, on a parlé de tonalité. Elle a dit je crois que ça va aller pour moi aussi. Enfin. Et puis voilà, donc c'était quand même un bonheur d'avoir des compliments de Diana Krall sur une version musicale.
C'est d'abord Iggy Pop, en fait,
oui.
Qui a dit oui, et qui ensuite a fait signe à Diana Krall. Mais
Oui, c'est Alain Lahanna même... qui je dois une caisse de champagne. Alors je lui dis, j'attends de voir un peu les ventes de disques, parce que je pense que c'est compliqué.
Ce
sera peut-être une caisse de champomie, bon, il est au courant, mais du coup, c'est lui qui... Il était avec Iggy Pop à ce moment-là, et quand il a entendu parler de ce projet, Iggy Pop a dit « Ouais, ça a l'air bien » et tout ça. Puis il dit « Mais tiens, et si on demandait à Diana Krall, puisque ça fait un moment qu'elle veut faire un truc avec moi, on n'a qu'à faire ça tous les trois, tous ensemble. » Et il a dit à Alain « Tu crois que Thomas serait d'accord ?» Et tout, et Alain a dit « Oui, je crois qu'il sera d'accord.
» C'est chic. Bon, une autre voix magistrale qu'on retrouve sur cet album, baptisée Frenchie, une voix d'ailleurs qui me fait penser à celle de Dean Martin, et celle de l'acteur Jeff Goldblum, héros de tous les Jurassic Park, Jurassic World et Independence Day. Et j'aimerais bien savoir comment elle est née, l'idée d'un duo avec Jeff Goldblum.
Écoute, il s'est mis un petit peu à la musique, au piano. Et il fait quelques tournées, il est pianiste de jazz. Et il est
parallèlement à la carrière d'acteur.
Ouais, voilà, il fait ça. Et donc, il est aussi chez Blue Note, donc dans le même label que moi. Et en fait, je l'avais rencontré. C'est comme ça que ça se passe aussi, même avec les grosses stars internationales. Je l'avais rencontré chez Michel Drucker, finalement, sur le canapé rouge de Michel. Et du coup, on s'est rencontrés. Il est charmant, très fascinant, comme ça. Il est très beau, très grand et très sympathique. Et donc, on lui a proposé. Il a dit oui. Il a été très partant tout de suite. Enfin, aucun problème avec lui.
Tout le monde a dit oui.
Et sa femme
quoi.
Est française. Alors, il y a toujours un petit truc. C'est-à-dire que Iggy Pop, il est obsédé par la France, puisque c'est... Depuis 3 ou 4 albums, il reprend des titres français tout le temps. Il a chanté Les Feuilles Mortes, il a chanté carrément Les Passantes de Brassens sur un de ses disques là récemment, donc c'est assez fou.
Ah oui.
Jeff Goldblum, sa femme est française. Billy Gibbons, le chanteur, guitariste, leader de ZZ Top, lui, alors, lui, il a dit oui parce que sa femme a fait ses études de danse quand elle avait 20 ans à Paris, tu vois. Et quand ils ont écouté ça ensemble, le projet, la proposition, elle a dit « Ah, c'est super, tu devrais faire ça, c'est génial, Paris, youpi ».
Donc on parle toujours de French bashing, mais en fait, voilà, il y a toujours une aura de la France à l'étranger.
En France, on est les champions du monde pour se plaindre de tout et on a raison, et puis c'est comme ça, j'en sais rien. Bon, mais il faut se rappeler aussi... C'est bien de se plaindre, mais c'est bien de se rappeler aussi qu'on fait envie et on fait rêver beaucoup d'autres pays dans le monde pour nos avantages sociaux et pour la beauté de nos villes et notre douceur de vivre, n'est-ce pas ?
Et de notre culture.
Et nos chansons.
Les chansons que vous égrenez sur
et
cet
notre
album.
Pinard,
voilà.
Et notre fromage.
Elles sont à l'écart des courants actuels, ces chansons, mais elles sont éternelles. Elles ont été interprétées par le passé, donc par Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Louis Armstrong, Dean Martin, Nina Simone. Mais elles sont toutes nées en France, sous la plume, par exemple, de Sacha Distel, d'Edith Piaf, de Claude François, de Francis Lai, de Charles Trenet ou de Daft Punk, car vous ratissez large sur cet album. Donc, on peut dire que les Américains ont fait leur miel du patrimoine français. Et cette fois-ci, c'est vous qui vous réappropriez tout cela.
Oui, moi, quand on m'a proposé ça, comme idée, voilà, pour, encore une fois, pour voyager et aller jouer dans d'autres pays que les pays francophones, je trouvais que c'était une bonne idée, mais j'étais pas sûr. Genre, reprendre des morceaux, comme vous avez cité, déjà chantés par les plus grands, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien apporter à tout ça? Et quand j'en ai parlé à mon ami Rocky Gresset, que je connais depuis qu'il a 15 ans, qui est un guitariste de jazz d'origine manouche, qui a aujourd'hui 38 ans et avec qui je joue beaucoup, qui est un vrai ami, c'est un grand virtuose à la guitare, et quand je lui ai parlé de ce projet, tout de suite, il m'a dit « Moi, tu sais, c'est ce genre de musique, j'écoute que ça depuis que je suis petit. C'est vraiment la musique que j'aime. » Il m'a dit « Si on fait ça ensemble, t'inquiète pas, on va te faire de la bonne musique. »
Et les mélodies ont été très twistées,
et quand
justement.
On a essayé, voilà, on a fait swinguer ça. Et même s'il joue de jazz, Rocky, il joue Django Reinhardt aussi. Mais quand il joue vraiment lui-même, Rocky Gresset, ses notes à lui, il est un peu plus jazz moderne. Mais il a quand même cette fibre. Il est d'origine manouche, il n'y a rien à faire. Il a une âme tzigane, il a du sang manouche. Et donc, il y a ce truc qui passe et qui est aussi typiquement français que le monde entier nous envie. Parce qu'il faut savoir que Django Reinhardt, même si on ne lui rend pas énormément hommage en France...
Il est célèbre dans le monde entier.
Il est célèbre dans le monde entier. C'est un génie musical au même titre que Mozart ou Chopin. Et il y a des gens qui jouent sa musique au Japon, aux États-Unis, partout.
On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite Thomas Dutronc. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité, aujourd'hui, Thomas Dutronc.
Sur son nouvel album baptisé « Frenchie », Thomas Dutronc nous offre des duos et des trios avec les plus grandes stars anglo-saxonnes du rock ou de la pop qui reprennent notre patrimoine revisité. Et Thomas Dutronc, cet après-midi, est mon invité. Alors, cher Thomas, quand on est enfant unique, avec des parents ultra célèbres, Françoise Hardy et Jacques Dutronc, comment échappe-t-on au profil de l'enfant solitaire ? Vous étiez un enfant solitaire ?
Quand on est fils unique, oui, forcément un peu, mais j'ai dû copier mon père aussi là-dessus. J'ai toujours eu pas mal de copains, quoi. J'étais assez convivial et puis il y avait souvent pas mal de copains à la maison.
Voilà, comme on n'a pas de frères et sœurs, on est doué pour tricoter l'amitié. Bon, alors j'ai appris une chose assez surréaliste. Lorsque vous êtes né, votre père a, paraît-il, attendu un an avant de s'installer en famille avec votre maman, donc Françoise Hardy, car il devait s'occuper de son guépard, baptisé Sumo, guépard qui dormait avec lui dans son lit. Elles sont merveilleuses les années 70, hein, où rien n'était interdit. Mais bon, non seulement c'est surréaliste, mais c'est quand même juste abominablement dangereux cette histoire. Elle est vraie ?
Oui, il avait un guépard. Moi, je n'ai pas connu ça, mais effectivement, du coup, c'était peut-être un peu dangereux, un bébé et un guépard dans la même pièce.
Mais il n'a pas choisi. C'est-à-dire, vous êtes arrivé au monde et il a continué de vivre avec son guépard, votre père.
Oui, c'était comme ça. Oui, c'est vrai qu'il...
Parce qu'il paraît qu'il n'est venu s'installer avec femme et enfant que lorsque le guépard est mort, n'est-ce pas ? C'est ça ? Vous aviez un an.
Je ne sais pas trop les histoires. Je sais qu'il en a eu deux des guépards. Il y en a un qui l'a donné, peut-être un autre qui est mort. Enfin, je ne sais pas. Mais je me rappelle qu'il fallait lui donner un gigot entier par jour, enfin la taille d'un gigot en viande, quoi, par jour. Et toutes les semaines, une poule vivante pour qu'il l'attrape, pour qu'il chasse.
Au secours.
Mais je crois que apparemment, mon père ne s'en occupait pas tant que ça non plus, puisque mon grand-père racontait que le soir, il lisait. Il allait lire dans la petite pièce du guépard et le guépard posait sa tête sur les genoux. Le guépard avait l'air de s'emmerder sévère dans un appart à Paris, tu vois. Donc c'est pour ça qu'après, mon père l'a donné quand même à des gens qui avaient un grand parc ou un château, je ne sais pas quoi. Fin.
Bon, en tout cas, il y en a un qui était là vraiment dès le jour de votre arrivée à l'hôpital américain, c'est Gainsbourg. Alors Gainsbourg, C'était une sorte d'oncle, n'est-ce pas? C'est lui, paraît-il, qui vous a offert votre première chenille-fille. Il vous a emmené déjeuner, dîner au Ritz, la première coupe de champagne, des conseils.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de le connaître. Malheureusement, j'étais un peu jeune, un peu adolescent et enfant. Alors, il était à l'hôpital, malheureusement, pour un problème de santé. Je crois quand je suis né, il n'est pas venu comme ça, gentiment. Il était déjà à l'hôpital, je crois, où il faisait un examen, je ne sais pas. Enfin, et en tout cas, il a envoyé un petit mot à ma maman, disant s'il est timide, ce sera un petit Thomas à la tomate. Et j'ai gardé le mot qui est encadré chez moi. Je suis très fier d'avoir un mot pareil, et c'est magnifique. J'adore.
Ça pouvait être un début de chanson, ça.
Ça c'est... Mais voilà, c'est tout lui. Il avait une tendresse comme ça qui était gigantesque, une élégance, une tendresse... Très joueur aussi, très, très drôle, quoi, très amusant.
Très malicieux.
Très malicieux, voilà. C'est... Ouais. Donc j'ai eu la chance de le côtoyer un peu. Moi, il m'invitait à dîner, je ne sais pas, une fois par mois. Alors j'allais quand j'avais 14 ans et tout. Il m'emmenait dans des endroits très chics. Des fois, je venais avec un copain ou deux. On s'amusait. Je me rappelle d'un copain qui fumait. On avait 14 ans, alors il fumait. Puis il y avait un mec qui arrivait, qui retirait sa cigarette, avec un... comme dans les grands restaurants, ouais, qui retirait la cigarette à peine finie. Alors mon copain, il n'avait jamais vu ça. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis voilà, on parlait, je ne sais pas de quoi on parlait, on racontait des histoires drôles, on parlait de musique sûrement un peu, mais...
Vous parliez de
je
musique
sûrement. Je regrette de ne pas l'avoir connu en étant plus âgé, quoi, c'est sûr.
Il paraît que vos parents ne vous ont jamais emmené avec eux en studio d'enregistrement. Ils ne vous ont jamais fait prendre, en fait, de cours de piano, ni de cours de guitare. Et la première fois que vous avez vu votre père chanter donc sur une scène, c'était en 92, vous aviez déjà 18 ans, c'est ça?
Oui, ouais, 17-18 ans, oui. Eh bien oui, oui, c'est curieux, mais oui, mon père ne chantait pas trop à la maison, ma mère non plus finalement. Alors si, quand j'étais petit, j'ai le souvenir comme ça, ils faisaient leur album, comme moi je peux faire maintenant, et ils en étaient fiers, et donc ils le faisaient écouter. Ça par contre, j'étais là quand il y avait un dîner avec des amis le samedi soir, ils faisaient écouter l'album à l'apéritif ou après manger encore un coup. Et là du coup, j'en profitais aussi.
Mais la fabrication aussi en studio, ça vous n'avez jamais assisté à des séances?
Non, pas trop de souvenirs, mais... Oui, mais alors, je pense que j'allais à l'école, en fait, tout simplement.
Thomas Dutronc, vous l'avez vécu comment, la découverte tardive, donc l'année de vos 18 ans, la découverte de votre père sur une scène?
J'étais très fier, très impressionné. Après, je connaissais évidemment déjà toutes ses chansons.
Oui, mais soudain, vous le voyez face à un public qui l'idolâtre et vous le voyez les faire vivre, ces chansons-là.
Oui, ça, c'est...
Ça prend une dimension totalement différente.
Ça, c'était un peu curieux. Le succès qu'il a eu dans cette tournée, ça a été fou. Il a refait toutes les dates deux fois. Il y a Mitterrand qui est venu le voir. Tous les soirs, il y avait quelqu'un de très connu qui venait le voir et le saluer dans les loges après. Il est resté très, très longtemps au Casino de Paris. Il est repassé après. Ils ont tourné toute l'année. Moi, je traînais avec les musiciens. J'ai suivi un peu la tournée aussi. J'ai passé un peu de temps dans le tourbus. Je commençais tout juste la guitare, je demandais des trucs aux guitaristes et tout. Et c'était... Bon, ça m'a amusé, je faisais des photos. Alors je prenais tout le monde en photo, tous les musiciens en photo. D'ailleurs, j'avais tiré des magnifiques photos de tout le monde que je voulais donner à chacun. Et puis j'avais vu le régisseur qui s'appelait Dada, qui était un sacré personnage. Après tout ça, enfin, une fois que la tournée était finie, je lui montre les photos. Je lui dis, tiens, tu sais, il faudrait que tu me donnes les adresses de tout le monde. Il dit, t'inquiète pas, donne-moi ça, je vais leur donner. Il les a toutes gardées. Il n'a jamais rien donné à personne. Du grand Dada.
Vous savez de quoi on va parler dans un instant? Parce que vous auriez pu faire maths sup, maths spé. C'est en tout cas ce que pensait votre prof en terminale. Sauf qu'il vous a dit, paraît-il, que vous n'étiez pas assez compétitif pour le cursus, peut-être trop dilettante. Donc, voilà, il avait sans doute raison. La musique vous attendait, celle en tout cas de Django Reinhardt et de son jazz manouche. Mais on va parler justement de, voilà, le parallèle entre, on va dire, rythme et architecture mathématique. On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite Thomas Dutronc, mon invité, qui vient de sortir un nouvel album, un vrai cadeau baptisé Frenchy. À tout de suite.
Europe 1. Son nouvel album est sorti hier, un hommage aux chansons qui font partie de notre patrimoine. Thomas Dutronc se dévoile au micro d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Cet album bouscule les genres, les âges et les inspirations dans une sorte d'euphorie musicale en réinventant des chansons de notre patrimoine par des duos et des trios inattendus avec des stars anglo-saxonnes. Il a pour titre l'album Frenchy et Thomas Dutronc, qui est son initiateur, est mon invité. Thomas Dutronc, on va continuer donc de dérouler le fil de votre histoire. Vous avez 18 ans, vous rêvez d'apprendre à jouer, ou peut-être presque 18 ans, vous rêvez d'apprendre à jouer de la guitare. Mais les conseils de votre père, bien qu'il fût guitariste professionnel avant d'être chanteur, se réduisent, on va dire, à la plus simple expression. Il paraît que le jour où vous lui avez demandé « S'il te plaît, tu peux me montrer des accords ?», Jacques Dutronc vous a répondu « Bah écoute la radio, fais pareil, c'est vrai ?»
Oui, c'était son conseil. Mais d'ailleurs, c'est un bon conseil. écoute la radio et fais pareil, cherche, chope les accords.
D'accord, c'est un bon conseil, mais on commence comment?
Ouais, c'est ça. Bah, je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé. J'ai rencontré des gens, des copains, des gens. Ouais, des gens qui gratouillaient un peu déjà pour commencer. Et puis après, je te parlais par exemple du guitariste qui jouait avec mon père, qui est un grand guitariste en plus de jazz et tout ça. Enfin, j'ai rencontré plein de gens, je grignotais des accords, je volais des accords à gauche, à droite, quoi.
Alors, à cette époque-là, vous avez comme pote Mathieu Chédid, qui jouait déjà de la guitare comme un dieu. Vous pensiez en fait que jamais la musique ne serait votre métier, réellement, c'est ça?
Bah, j'ai découvert comme ça cet enthousiasme pour la guitare. J'ai eu un petit coup de foudre pour la guitare, j'avais 17 ans et demi.
Et pourquoi la guitare plus que le piano? En écoutant qui, quoi?
Eh ben, je sais pas. J'imagine que c'était dans. Il y a des gens qui d'un seul coup se passionnent pour le saxo, la contrebasse. On ne sait pas pourquoi. C'est. Je sais pas. Il y a un truc dans la forme. Peut-être que j'en avais vu plein. C'était dans mon imaginaire. Il y avait toutes ces guitares aussi qui traînaient chez moi dans des caisses enfermées, qui étaient un peu comme des mystères ou des. J'avais l'impression qu'il fallait peut-être frotter pour qu'un génie en sorte. Et puis en fait, j'écoutais de la guitare. Finalement, je préférais écouter de la guitare depuis toujours. Tout ce que j'écoutais, c'était rempli de guitare. Quand j'écoutais Chuck Berry. Hendrix ou je sais pas, ou ce que j'aimais bien, je sais pas, Walk This Way par exemple avec Aerosmith et Run DMC, c'était avant tout de la guitare, enfin tous les trucs qui me plaisaient le plus c'était de la guitare, le piano ça tout de suite un peu plus pour moi intello, froid, enfin j'étais plus branché guitare quoi.
Vous écoutiez donc tous ces artistes là et puis voilà que vous découvrez à Saint-Ouen un beau jour un lieu magique baptisé la Chope des Puces, c'était en fait le centre vital du jazz manouche à Paris. Alors d'abord vous écoutez, vous bossez chez vous sur les disques de Django Reinhardt, mais vous êtes affirmé comment? Comment avez-vous réussi à intégrer ce milieu qui n'était pas le vôtre, a priori, au départ?
Donc effectivement, moi j'ai travaillé à l'école, l'école m'a beaucoup intéressé et passionné, j'étais plutôt bon élève, parce que donc je faisais mes devoirs, et puis après je pouvais faire ce que je voulais, donc on avait un espèce de contrat de confiance avec mes parents dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'avais plein de copains qui, eux, par contre, étaient moins bons à l'école et faisaient plein de conneries, mais moi, comme je travaillais bien, déjà les parents de mes copains me faisaient confiance, et on pouvait faire plein de conneries ensemble.
Ils avaient raison de vous faire confiance,
non. Ouais, ça, si, parce que quand même, j'étais quand même raisonnable par rapport à eux, ça c'est sûr, c'était pas difficile. Mais bon, donc il y avait ce truc-là, mais c'est vrai qu'd'un seul coup, moi les études, ça me plaisait, mais d'un seul coup, comme effectivement, je me voyais pas faire un cursus de mathématiques, vu le milieu dans lequel j'ai évolué, j'ai grandi, vu mes copains et tout ça, je trouvais ça, je commençais à avoir envie d'être un peu plus... moins sage, quoi. Je sais, j'avais envie de faire plus de conneries. Alors, je faisais des petits films avec une caméra qui m'amusait beaucoup. On faisait des parodies de films de karaté ou de films de détective avec tous mes copains fous. On rigolait vraiment beaucoup. Je faisais des montages, on mettait des musiques. Ça, c'était un truc artistique. Du coup, j'ai voulu faire du cinéma, mais je me suis retrouvé dans une fac qui ne m'a pas vraiment correspondu, qui ne m'a pas plu vraiment. Et donc,
Il paraît qu'en fait, on ne passait que des films de Godard.
Voilà,
c'était pas exactement le cinéma en fait qui vous fascinait, celui-là.
Oui, on avait une UV de vidéosculpture uniquement, par exemple. Donc c'était, moi j'avais envie d'apprendre le scénario, l'écriture du scénario, ou comment on éclaire une image pour qu'elle soit belle, ou je sais pas tous les élèves, ils avaient envie qu'on parle de Coppola, Hitchcock, Spielberg ou Capra, j'en sais rien. Et on a parlé. Je crois que la première année, on n'a pas dépassé Méliès, mais enfin il y avait des grèves tout le temps. Enfin c'était un peu compliqué. Notre prof principal était un artiste contemporain, très respecté d'ailleurs, mais qui faisait du boudin avec son sang. Il appelait ça boudin, il vendait ça boudin d'artiste. Donc moi, c'est sûr que j'étais venu apprendre un cinéma un peu plus traditionnel.
On était en plein happening, quoi.
C'était du happening. C'était pas inintéressant et j'ai rencontré des gens fantastiques que je connais encore et je critique pas du tout ça, mais disons que j'étais un petit peu perdu, j'avais besoin d'autre chose, de quelque chose de plus... nourrissant, j'étais pas nourri par ces matières-là.
Alors,
j'ai trouvé la guitare
et
la photo.
Vous avez trouvé la guitare.
La guitare et la photo.
Et la photo.
Et ensuite, j'ai choisi la guitare. Mais le truc par rapport
à
Django, tout ça.
Qui vous a amené vers la musique. Mais alors, attendez, avant de parler de Django Reinhardt, quand même, j'aimerais qu'on fasse le parallèle avec les maths. Puisque, je le rappelle, votre prof de maths en terminale, vous avez dit que vous aviez les capacités nécessaires pour faire maths sup. Bon, pour jouer improvisé du jazz, dans la notion de musicalité, de fluidité, il faut avoir quand même le sens des maths, parce qu'on construit une chapelle de notes à l'intérieur et autour d'une architecture rythmique. Donc avoir le sens du rythme, c'est avoir, sans s'en rendre compte, d'une manière complètement comme ça, spontanée, une espèce d'instinct mathématique pour arriver pile à la résolution, surtout dans l'impro.
Moi, ce que je vois, c'est le côté mystique, par contre. C'est-à-dire le rêve face à un espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais tu vois, quand Charlie Parker joue Miles Davis ou Django, ou quand tu entends Bach, effectivement, il y a quelque chose de mystique. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu mets cette musique devant les étoiles et tu as le mystère de
bien
la création.
Évidemment,
si
bien évidemment, mais là, c'est une addition de tout.
Il y a quelque chose de ludique, peut-être, qu'il y a aussi dans les mathématiques, mais c'est quand même de la poésie, c'est quand même du... ça fait quand même appel à les mathématiques aussi, mais ça fait quand même appel vraiment à l'hémisphère de l'imaginaire et du rêve, tu vois, beaucoup plus que...
Voilà. Bien sûr, sauf qu'il faut toujours retomber sur ses pattes. Et par exemple, je pense à ceux qui chantent du scat en improvisant à une vitesse folle. Donc là, c'est une écriture.
Tu sais, c'est le chant.
Comme dans les choruses, par exemple.
C'est le chant, ça se développe. Il y a des gens... On parlait de Rocky Gresset qui joue dans mon disque que j'ai connu quand il avait 15 ans. Ninin Garcia, un super guitariste aussi, il me dit « Il faut que tu viennes voir, il y a un jeune de chez nous, il joue terrible, c'est même pas la peine et tout. » Je dis « Ah bon ?» et tout. Puis moi, j'avais, je sais pas, 23 ans, un truc comme ça. Et je le vois jouer à 15 ans, fabuleux, pas une fausse note, pas un truc, toujours dans le tempo, enfin parfait, quoi, comme j'aurais rêvé jouer, même encore aujourd'hui. Je sais pas jouer comme il jouait quand il avait 15 ans. J'ai vu un cousin, lui, qui m'a dit... C'est moi qui lui ai appris la guitare à Rocky. Il me dit, je lui ai trouvé une guitare, je lui ai donné. Il me dit, au bout d'un mois, il jouait mieux que moi. Ça faisait 6 ans que j'en faisais. Il m'a dit, je suis dégoûté, j'ai arrêté la guitare. Donc, il y a des gens comme ça qui ont un... Tu vois, et ça, c'est... Après, c'est ça qui est attirant et fascinant dans le milieu des musiciens manouches. Ils ont ce truc, je ne sais pas si c'est tzigane, je ne sais pas d'où ça vient. Je veux pas... C'est des gens très pudiques aussi, donc je ne veux pas qu'ils m'écoutent. S'il y en a, il faut qu'ils ferment tout de suite la radio. Mais c'est... ils abordent la musique différemment de nous, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de... la musique, c'est le chant avant tout, c'est-à-dire que moi, ce que je voyais dans moi, avec ma culture de petit blanc et tous mes copains autour, c'était on avait envie de faire de la guitare pour faire du rock frimé en se roulant par terre avec des plumes et des sangles en léopard et faire, je sais pas, un peu les... Alors que eux, la musique, c'est la musique, c'est-à-dire c'est ce qu'ils chantent, c'est-à-dire qu'avant tout, qu'est-ce qu'on va chanter ? On va chanter même une chanson enfantine, on la chante plus que des riffs rock'n'roll, on va dire. C'est la musique. Et la musique, c'est ça. La musique, c'est Mozart, c'est Chopin, c'est Bach, c'est Beethoven. C'est les grands jazzman. C'est quand ça chante, quand il y a des beaux accords, quand il y a des... Rocky fait des accords qu'il a inventés lui-même, tous. On ne sait pas d'où ils sortent. C'est vraiment un magicien pour ça, si tu veux. Moi, la musique, c'est ça. C'est une magie qui naît de rien. C'est, au départ, la musique, c'est, effectivement, ça rejoint les maths parce que c'est des ondes. Tu vois, il y a des ondes et on a, je ne sais pas si c'est les Grecs ou qui a fait ça en premier, mais on a fait vibrer une corde et on s'est aperçu que le deuxième son qu'on entendait, si on prêtait l'oreille, il y avait une deuxième résonance, c'était la quinte ou la tierce, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on a créé l'harmonie avec la tierce, puis la quinte. Donc y a tout... Mais Rocky ou Django Reinhardt, vous ne connaissez pas.
C'est pour ça que je parlais d'instinct.
Un seul nom d'accord, une seule gamme et tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est que des accords qui...
Oui, cette magie-là, on a presque envie de ne pas la mettre en partition.
Et voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas du... Alors après, il y a plein de gens qui travaillent la musique comme des maths, effectivement, qui vont faire des tableaux avec des constructions d'accords compliqués, des gammes, la musique modale et tout ça. Donc ça, et il y a beaucoup de grands jazzmen, je crois, qui avaient fait des grandes études de musique, quoi, carrément. Mais je n'ai pas d'opinion vraiment là-dessus, si ce n'est que pour moi, le plus grand... guitariste et aussi le plus grand improvisateur, tout instrument confondu, c'est Django Reinhardt qui ne connaissait pas une note de solfège.
On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Thomas Dutronc.
Europe 1. Europe 1.
Et Thomas Dutronc est avec nous sur Europe 1. Il est l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Le nouvel album de Thomas Dutronc libère les endorphines. Il constitue une sorte de bande-son idéale de la vie rêvée. Et oui, il a pour titre Frenchie. Thomas Dutronc, lorsque vous êtes mis à la guitare, après avoir découvert donc le jazz manouche qu'on jouait dans la tradition de Django Reinhardt à la Chope des Puces à Saint-Ouen, au milieu d'un public d'aficionados, eh bien, il paraît que votre père vous a fait un cadeau aussi magique qu'inattendu. Il vous a offert la guitare Selmer numéro 566 que Django Reinhardt lui-même avait donnée au comte de Paris. Comment votre père l'a-t-il récupérée ? Elle est vraie cette histoire ?
Écoute... On avait à l'époque demandé à Babik Reinhardt, qui hélas n'est plus parmi nous, qui était le fils de Django, qui nous avait dit que c'était vrai. Mais je ne saurais jamais s'il a dit que c'était vrai pour nous faire plaisir.
Ah.
Tu vois, parce que... Mais il a eu l'air sincère. Après, peut-être que... Je pense que c'est... Voilà, comment savoir, si tu veux, de toute façon, c'était pas la guitare de Django. Après, est-ce que Django a joué dessus ? Peut-être. Et est-ce que Django l'aurait donné au comte de Paris qu'il a donné à mon père ?
Parce que si c'est vrai, c'est complètement surréaliste, la vie de cette guitare.
Ouais, c'est marrant.
C'est Django Reinhardt, le comte de Paris, et Jacques Dutronc qui la récupère pour la donner à son fils.
Alors tu sais, ce qui est drôle, c'est que ces guitares-là, entre guillemets, un peu acoustiques, manouches, comme on peut appeler, dans ce style un peu Django, on cherche encore ces vieilles guitares, tu vois, et ces guitares Selmer, tu disais 566, il n'y en a eu que 850 de fabriquées, donc aujourd'hui ça a beaucoup de valeur, c'est très rare, c'est très recherché, elles ne sonnent pas toutes bien, il y en a des pas très bonnes. Il y en a qui ont mal vieilli, mais c'est le Stradivarius de la guitare acoustique.
Mais celle que votre père donc, a récupérée sonnait bien ? Il vous a donné ? Elle sonnait
alors,
bien ?
Malheureusement, il l'avait mal entreposée parce qu'elle était au fond du petit couloir là où il y avait plein d'étuis de guitare collés contre la paroi, mais de l'autre côté de la paroi, il y avait un chauffage. Et ma mère, m'ayant torturé toute mon enfance, puisqu'elle aimait qu'il y avait 24 degrés quand même à la maison, ce qui est quand même énorme, du coup, le chauffage derrière la paroi, je vous laisse imaginer la chaleur du
funeste truc. Funeste pour les guitares.
Et en fait, la guitare, la table était complètement enfoncée, défoncée. On a dû changer la table. Donc, bon, elle a perdu de sa valeur, de son authenticité, mais elle sonne. Elle a le son quand même dans les aigus. Elle a le même son qu'elle avait parce qu'on a quand même pu la faire sonner avant de la refaire entièrement.
Ouais.
Et elle a un son, elle a des aigus magiques. Je me rappelle avoir montré cette guitare à quelques grands guitaristes manouches qui étaient très impressionnés aussi de voir une belle... Puis elle a un truc assez... Elle n'est pas comme les autres Selmer. C'est ça qui est assez curieux, là. D'habitude, les Selmer sont en deux manches, et celle-là, un seul manche. Enfin, elle a une autre morphologie, c'est assez curieux. Et puis 566, c'est pas loin de la guitare du diable.
Bon, Thomas Dutronc, quand et où, pour la première fois, avez-vous joué en public et devant votre père ?
Écoute, je crois que c'était en Corse. J'ai fait mes premières armes de guitare en Corse. Peut-être il y avait une paillote.
Et vous êtes lancé.
Peut-être la première fois qu'il m'a écouté, c'était dans un vieux cabaret à Bastia. Je sais comment il s'appelait, je sais plus maintenant. Je crois qu'il n'existe plus. Il y a eu des meurtres, des trucs. C'était resté dans son jus dans les années 60 quand on y avait joué. On était avec un groupe. Il y avait
You Fanal.
Le Fanal.
Oui.
Ah oui, c'est peut-être ça.
C'est
le Fanal.
Ça.
Ouais, ça doit être ça. Bravo. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on a joué en public et en plus devant mon père. Et là, alors il y avait un copain, Antoine Tatis, qu'on peut entendre sur mon premier disque, qui chante une chanson corse, un super guitariste, un super ami. Et il m'avait pris sous son aile un peu, mais moi je ne savais rien faire, je connaissais quatre morceaux. Il avait pris un contrebassiste, Antoine Luciani, hyper sympa, et une accordéoniste, et qu'il avait mise au clavier, je crois. Je ne sais plus qui y avait d'autre, mais en tout cas, on n'avait jamais répété, et on était tous vraiment débutants amateurs. Et je ne sais pas ce qu'on a joué, quoi. On devait connaître deux ou trois morceaux en commun. Donc ça a dû être quand même un concert
bon, mais après,
avec pas mal de pain.
Après Thomas Dutronc, vous avez fait vos classes avec bon, le héros actuel du jazz manouche, Biréli Lagrène, mondialement connu. Et sur scène avec son groupe, vous êtes resté quand même assez longtemps comme, j'ai envie de dire, caché derrière, comme ça, sans faire de chorus. Vous n'osiez pas vous lancer ?
Oh bah, c'est même pas ça, c'est que Biréli, il a un niveau de guitare, c'est un musicien qui est carrément extraterrestre, donc... Personne n'ose jouer.
Oui, mais vous avez choisi pour jouer avec lui.
Django a eu le même... Enfin, Biréli, il y a plein de gens quand même qui osent jouer avec lui, mais je sais que Django a eu ce syndrome-là. Des fois, il arrivait dans un bar, il y avait des gens qui jouaient, tout le monde s'enfuyait, quoi. Il voyait que Django arrivait. Henri Crolla, par exemple, le guitariste qui a très longtemps accompagné Yves Montand, quand il jouait dans des clubs à Saint-Germain, il voyait les pieds de Django sur l'escalier, il posait la guitare, il s'enfuyait. Ça a été repris, d'ailleurs, comme anecdote dans le film de Woody Allen, Accords et désaccords. Biréli, avec un niveau pareil, non, moi je voulais jamais jouer, effectivement. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression d'avoir 2 ans et demi et lui, qu'il avait 350 ans de guitare.
Vous étiez derrière en train d'accompagner le groupe avec les fameuses pompes du jazz manouche.
Voilà,
quoi. C'est la base rythmique.
La pompe, c'est-à-dire on fait la guitare d'accompagnement. Voilà, c'est la guitare d'accompagnement. Après, il y a eu de la pompe aussi avec la batterie. On a eu des groupes de jazz avec une batterie, mais aussi une rythmique à la guitare, comme chez Count Basie par exemple. Mais Django avait inventé le quintet à cordes, donc avec deux guitares rythmiques, lui en plus à la guitare, un violon et une contrebasse. Et donc Biréli a grandi dans cette musique, s'est fait connaître quand il avait 10-12 ans, et il était déjà un prodige. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il avait aussi un blues, une âme, c'est-à-dire qu'il racontait des choses. Quand il improvisait, il y avait du sentiment, et des fois c'était même un peu inquiétant, parce que comment à 12 ans il peut ressentir autant de choses adultes, quoi, autant de blues, autant de choses. Donc c'est... Voilà, mais il avait quitté la musique de Django entre ses 18 ans et 35 ans. Et j'ai eu la chance de revenir avec lui quand il a repris cette musique. Et bon,
donc vous avez fait vos classes avec lui.
Voilà,
et je veux revenir
pompe,
à vous, Thomas
bonheur.
Dutronc.
Ouais.
S'il fallait choisir la prestation sur scène à la guitare dont vous êtes le plus fier et que Django Reinhardt lui-même aurait pu applaudir, vous optez pour quel souvenir ?
De moi ?
Oui.
Oh là là. Il y a eu des supers envolées. Je ne sais pas, la musique, c'est ça. C'est le côté éphémère aussi. Faut se dire que voilà ce qu'on fait, tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, comme dit Aznavour. Et c'est ça, donc on ne sait pas, le meilleur, ça a été un soir, on ne sait plus quand.
Bon, à 20 ans, vous êtes devenu guitariste, mais vous avez attendu 15 ans pour oser chanter. Vous trouviez qu'il y avait assez de chanteurs comme ça dans la famille, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé la guitare, je me suis dit, bon, à la guitare, voilà, soit on reprend des chansons, et c'est cool. J'en avais, pendant un an, je faisais un peu. Je reprenais un truc de Bob Marley, de Brassens, je sais pas, je faisais des chansons, quoi. Puis, parce que les gens que j'encontrais chantaient des chansons aussi, donc je disais, ah, c'est cool, fais voir.
Et vous puis, avez entendu chanter vos parents ou pas?
Bah non, non, pas vraiment. Je faisais ça un peu dans mon coin. De toute façon, j'avais 18 ans, je voyais plus trop mes parents. Et puis il y avait aussi le côté faire des petits solos, quoi, improviser sur le blues. Ou les... Et ça, ça m'a plu. Puis je me suis dit, effectivement, bon, il y a assez de chanteurs comme ça dans la famille, donc le côté solo m'a intéressé.
Mais qui est votre public, Thomas Dutronc? Votre public, il est, vous allez me dire si je me trompe, mais comme vous, nostalgique d'un certain monde d'avant?
J'écoute ce qui me plaît, j'écoute ce qui me transporte, ce que je trouve beau. Et par contre, ce que je fais peu, et ça c'est pas de la nostalgie, c'est plutôt de la flemme ou du manque de temps, c'est que je vais pas écouter tout ce qui se fait aujourd'hui, parce que ça prend du temps de défricher tout, mais il y a plein de choses que j'écoute aujourd'hui qui me fascinent. Je sais pas, il y a un guitariste, compositeur, chanteur américain par exemple qui s'appelle Blake Mills, je sais pas si t'as entendu parler, qui est fabuleux. Il joue du slide, il chante, il compose pour les plus grands maintenant. Bon, il y a des Chris Stein, un modéliniste, il y a plein d'artistes comme ça, mais c'est vrai que c'est des artistes un petit peu, on va dire, c'est pas pour musiciens, mais c'est, voilà, c'est, ils sont connus un peu de gens qui sont intéressés dans la musique, où il y a des artistes de country, tu vois, des chanteurs, je m'intéresse toujours aussi beaucoup aux guitaristes, j'adore voir des gens manier la guitare, ça c'est sûr que les guitaristes adorent les autres guitaristes. Donc non, j'écoute beaucoup de choses actuelles aussi, c'est pas, c'est juste que, oui, je suis moins branché, on va dire, dans tout ce qui est DJ ou électro, tout ça, ce qui m'empêche pas d'apprécier plein de choses. Et j'ai tout de suite été fan de Daft Punk, par exemple. Il y a peu de choses nouvelles qui me plaisent, mais Daft Punk, ça, quand j'ai écouté ça, leur premier album, ça m'a tout de suite plu, quoi. C'est vraiment.
Voilà. Dont il y a une reprise sur l'album Frenchie. J'ai encore plein de questions à vous poser.
Bah, génial.
Vous rendez compte ? Bon, alors, on se retrouve dans Allez, une poignée de secondes. À tout de suite avec Thomas Dutronc.
Europe 1. 14 monuments du répertoire de la chanson française devenus des standards internationaux réunis sur le nouvel album de Thomas Dutronc. C'est Frenchie, le titre de cet album, et il est l'invité d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Thomas Dutronc, dont l'album Frenchie est sorti hier, sera en concert à la Cigale à Paris les 2 et 3 octobre. Et cet après-midi, on se promène avec lui. Alors, cher Thomas, il paraît que chaque fois que vous posez vos valises dans votre maison en Corse, qui se trouve en Balagne, entre mer et maquis, vous vous exclamez « Bon, cette fois-ci, je repars plus ». C'est vrai ?
Oh putain, à chaque fois, c'est une souffrance de partir de là-bas, c'est horrible. C'est vraiment un crève-cœur, quoi. C'est épouvantable, quoi. C'est toujours vraiment une torture de partir de là-bas, alors que d'y aller, c'est une fête. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, je dis « Bon, bah là, ça suffit, j'habite en Corse, et puis tant pis, dès qu'il y a besoin, je reviens à Paris ». Sauf que là, il y avait besoin, j'étais en promo, puis il y a eu le confinement, j'ai pas pu repartir là-bas. Donc la Corse me manque, oui, la nature me manque. Après, j'ai été confiné à la campagne, donc je me rends compte qu'il y a quand même l'élément beau temps, parce qu'on a eu beau temps là tout le temps, donc en Corse, il fait quand même souvent très beau, mais il n'y a pas que ça, évidemment.
Il n'y a pas que ça, parce que par exemple, la région que vous avez choisie, cette région, elle est couverte de vignes. Dans son maquis, on trouve de la myrte, des immortelles, cette fleur aux vertus médicinales. Le soleil, il est presque aveuglant. Voilà, les vieilles pierres racontent des histoires. J'aimerais d'ailleurs savoir, décrire la vue que vous avez de votre maison?
Il y a plusieurs vues. Il y a une vue du village. On voit bien l'église et les maisons, puis il y a une vue, on voit un peu la mer, il y a une vue, on voit un peu les montagnes. Mais c'est ce qui me plaît là-bas, c'est la douceur de vivre. Il y a de l'espace, il y a la mer, il y a la montagne, ça c'est sublime, c'est très beau. Mais il y a aussi beaucoup de gens que j'aime, qui ont une douceur de vivre, qui pensent à rigoler, à passer des bons moments. Les gens ne sont pas stressés ou agressifs, comme à Paris. On peut au dernier moment dire qu'est-ce que tu fais, tiens on se rejoint à Paris, c'est impossible parce que j'en ai marre de voilà les transports à Paris, les machins, enfin je sais pas, c'est compliqué, mes copains habitent tous à Perpète, si tu veux ça met une heure pour se rejoindre, donc arriver à un certain âge on n'a plus le courage
arriver à un certain âge dit-il,
on n'a plus le courage le soir de dire qu'est-ce que tu fais, rien, bon bah j'arrive, tu vois, enfin on peut pas passer voir un copain une demi-heure à Paris, c'est impossible parce que tout le monde habite à Perpète. Donc voilà, alors qu'encore, si tu prends ta bagnole et un quart d'heure après, tu tournes pas pendant un quart d'heure, tu te gares tout de suite.
Voilà, et puis
et tu vois le
copain
en bas.
Et pour un artiste, l'inspiration vagabonde en Corse, parce que la plupart de vos chansons, vous les avez écrites là-bas, en Balagne.
Ouais, j'en ai écrit beaucoup là-bas. Voilà, tu as le temps de vivre, tu te ressources tout de suite. C'est-à-dire que si la matinée tu vas te baigner ou marcher en montagne, par exemple, t'es vraiment heureux d'être en vie. Je suis conscient d'avoir beaucoup de chance, hein, de toute façon, bon. Tout va bien, je veux dire, pour moi, j'ai beaucoup de chance et je suis conscient, Mais la Corse et la campagne, enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'une histoire de fric là-dedans, parce que je crois qu'on peut
non,
vivre...
Vous êtes... voilà, c'est... Bon, mais... votre père, par exemple, il a acheté sa maison, bon, tout le monde sait que c'est à Monticello en 64,
c'est
donc...
c'est ma mère qui l'a fait construire, mon père squat, il est arrivé plus tard,
votre papa est un squatteur, voilà, qui est dans cette maison, donc il s'y est installé bien avant votre naissance, et d'ailleurs, il faut des événements exceptionnels pour qu'il quitte... provisoirement, ce domaine qui est devenu le sien, des événements comme par exemple la dernière tournée des Vieilles Canailles avec Johnny et Eddie. Mais vous avez donc, depuis que vous êtes né, passé tous les étés de votre vie dans cette île. Vous êtes presque Corse.
J'espère.
Faut poser la question aux Corses, c'est ça ?
J'espère, ouais, c'est des gens formidables. C'est vrai qu'à un moment où j'avais des velléités d'aller ailleurs, mon grand-père, on l'a rapatrié en Corse, parce que la vie était finalement plus gaie pour lui aussi là-bas, parce que voilà, il sortait sur la place à Île-Rousse et on lui avait trouvé un petit appartement à Île-Rousse au rez-de-chaussée. Il sortait, il y avait plein de gens sympas, il discutait avec les gens. Enfin, voilà, alors qu'à Paris, c'était beaucoup plus anonyme, plus triste. Et puis, il avait ses souvenirs à Paris, sa femme était partie. Donc, voilà, on l'a amené en Corse. Et du coup, dès que j'avais un moment à Noël ou l'été, bah, j'avais envie d'aller le voir parce qu'il me manquait beaucoup. Et puis voilà, petit à petit, je vous dis, à chaque fois, il n'y a pas une fois où j'étais content de quitter la Corse. Quoi. Mais pas une fois. Quoi. C'est toujours
vous vous débrouillez pour passer combien de mois par an là-bas ?
Le plus possible, quoi. Ça dépend des années. Il y a des fois, j'ai passé une année entière une fois là-bas. 6 mois, ça dépend. Quand je suis en tournée, du coup, je suis ni à Paris ni en Corse, je suis un peu partout. Quand je peux composer, je peux rester beaucoup plus en Corse.
Après, je pose la question au chanteur, à l'artiste que vous êtes. Les polyphonies corses, ça vous branche ?
J'aime beaucoup ça, ouais. C'est tout un univers aussi. Pour moi, je sais qu'au bout de 3-4 morceaux, ça me manque de ne pas comprendre les paroles. Je suis un peu obsédé de ça. J'ai vu U2 en concert, moi, au bout de 4-5 morceaux, ça me manquait aussi de ne pas comprendre les paroles. Je ne suis pas nul en anglais, mais avec le son à Bercy, mais ça, je ne comprenais rien. Bon, au bout de 4-5 morceaux, j'ai besoin de comprendre les paroles quand c'est de la chanson. Alors, la polyphonie, on est entre la grande musique et la chanson, mais il y a quand même des paroles, donc ça me manque un peu. Mais voilà, je trouve ça très beau. Après, je trouve ça un peu long au bout de 4-5 morceaux. Mais moi, j'ai pleuré plusieurs fois en écoutant des polyphonies. C'est magique.
Il parle corse, votre père ?
Non.
Non ?
Pas du
tout. Il le comprend un petit peu ? Non ?
Trois expressions de bistrot, comme moi.
Thomas Dutron, à cause du confinement, vos parents, vous ne les avez pas vus pendant plus de 2 mois. Bon, la santé de votre maman, Françoise Hardy, elle est fragile, on le sait. Elle a subi récemment des traitements lourds, impactants. Vous pouvez nous rassurer ?
Oui, pour l'instant, ça va. Mais c'est sûr qu'elle a un peu un quotidien facile. Elle a vraiment pas mal de petits soucis de santé. Elle a une santé très fragile et c'est un peu une petite lutte au quotidien. Elle a beaucoup de séquelles de ses chimio et radiothérapies, donc c'est un petit peu compliqué. Elle n'est pas en grande forme. La pauvre, on la plaint beaucoup parce qu'on l'aime beaucoup. Et elle souffre, elle se débat toute seule comme ça. Il y en a tellement tous d'amour pour elle que ça fait de la peine quoi, de la voir seule. Alors qu'il y a tout cet amour qui existe pour elle autour, le mien déjà. Et puis l'amour de plein d'autres gens aussi. Et des fois, on sent qu'elle a besoin de cet amour. On ne sait pas. On espère qu'elle pourra venir passer un mois en Corse. Mais on croise les doigts, elle en a très envie. Et nous tous aussi, ça lui ferait du bien de sortir un peu là.
On retrouve tout de suite Thomas Dutron.
Europe 1. Et la conversation se poursuit sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Thomas Dutron, puisque votre nouvel album, baptisé Frenchy, twist des titres du patrimoine français dont l'aura est internationale et que vous reprenez avec des stars anglo-saxonnes de la pop, du jazz et du rock, eh bien, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas glissé parmi toutes les pépites qu'il y a sur cet album la chanson de Trainet dont vous dites qu'elle est votre préférée, c'est-à-dire Que reste-t-il de nos abours ? Elle n'y figure pas,
non.
Or vous l'adorez celle-ci ?
En fait, on l'a enregistrée et la version est super, mais j'avais envie qu'elle soit encore mieux que super.
Il manquait un truc.
Il manquait un petit truc, une magie. La version originale est tellement belle pour moi, tellement magique, que la nôtre était vraiment bien, mais j'avais envie qu'elle soit magique. Donc peut-être on a cherché trop à se coller à la version originale. Mais déjà, c'était intéressant parce que finalement, quand tout le monde la reprend, personne ne la rejoue comme à l'origine parce qu'il y a des accélérations, des ralentis. Donc on a déjà fait ça, mais je pense qu'il faut...
Voilà, vous l'aviez faite en duo ?
Peut-être on fera un volume 2. Non, pas de duo. Parce qu'au début, on a tout enregistré tout seul avec
d'accord.
Les grands musiciens pour ensuite pouvoir proposer le son. Parce que voilà, quand vous proposez... à Billy Gibbons ou Diana Krall, il faut leur donner le son final.
On ne peut pas leur dire,
tiens, c'est une maquette, ça branche. On va l'enregistrer après vachement bien, je te promets, ça va être super.
Alors, si ça marche, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, l'album, il y aura
peut-être un jour. Alors,
un volume 2.
Bon, j'ai hâte de faire un disque de chansons originales. J'ai
oui,
déjà
bien sûr,
plein de
je sais qu'il
prêtes,
il est prêt, d'ailleurs.
Non, pas complètement, quand même. Il ne faut pas exagérer. On est toujours à la recherche d'un tube ou deux de dentifrice, évidemment. Et puis, non, mais on a besoin encore de quelques chansons fortes, voilà, et agréables. Mais peut-être qu'un jour, on fera un volume 2. Si ce disque plaît avec Frenchie, avec ce concept, parce qu'il y a plein de chansons qu'on n'a pas pu mettre dans le disque.
Il y a plein de chansons que vous n'avez pas pu mettre, mais par exemple, les Américains adoraient le répertoire d'Yves Montand, mais À Bicyclette, qui est chez nous une chanson divine, voilà, elle n'a pas du tout fonctionné
c'est marrant,
en Amérique.
Ça, t'as vu. Oui. Je pense que c'est parce qu'ils conduisent vachement de voitures et pas de bicyclette là-bas, il n'y a pas de vélo. Il faut changer les paroles en Harley Davidson. Oui, je pense qu'il faut l'adapter. Voilà, c'est dans le délire, dans les interviews, je raconte tout le temps, je dis oui, on peut faire vraiment un volume 2, parce qu'on n'a pas fait Aznavour, on n'a pas fait Michel Legrand, il y a plein d'autres chansons qui restent. Il y a les Gypsy Kings, parce que mine de rien, ils sont français, ils ont défoncé les charts américains comme personne, ils ont battu les records d'artistes français comme succès là-bas. Bon, il y a plein de musiques intéressantes, il y a des Francis Lai qui traînent aussi, qui sont géniaux. Mais il y a aussi un volume 3 qu'on pourrait faire avec justement les chansons françaises qui auraient pu faire le tour du monde, mais qui ne l'ont pas fait, genre Syracuse, tu vois, Syracuse de Salvador, ou je sais pas, la Javanaise de Gainsbourg, ou comme tu dis, À Bicyclette de Yves Montand.
Oui.
C'est des titres qui n'ont pas fait le tour du monde, qui pourraient vraiment être dans cette tradition de grands standards.
Vous parlez de Salvador, vous avez composé pour lui.
Oui, j'ai eu la chance de réussir à lui faire chanter un de mes textes. J'avais 25 ans, donc ça c'était un de mes premiers vraiment succès personnels dont je suis très fier.
Bon, théoriquement, Thomas Dutronc, le R&B, le rap, l'électro, la house ne sont pas, je dis bien théoriquement, votre cam. Que leur manque-t-il pour que vous accrochiez ?
Bah écoute, moi Daft Punk par exemple, ça m'a jamais posé de problème.
Mais c'est très populaire en même temps, il y a de vraies lignes mélodiques.
Il y a des vraies lignes mélodiques.
Il y a des gimmicks répétés,
vraiment des gimmicks,
en permanence.
Quand les instruments arrivent, il y a une surprise. Je sais pas, moi tu sais, j'aime vraiment toutes sortes de musique. C'est peut-être que...
Faut une ligne mélodique.
Ouais, ou c'est
gracieuse, magique, c'est ça. Faut que ça chante.
Oui, peut-être. Je suis pas braqué. Je suis vraiment prêt à écouter tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent moins tout de suite, quoi. Je sais pas, mais je connais pas tout.
Alors, si je vous demande, Thomas Dutronc, de constituer votre orchestre idéal en prenant les musiciens et les chanteurs qui de tout temps vous ont fait rêver, vous allez convoquer qui dans cette formation idéale ?
Mort ou vivant ?
J'ai dit de tout temps.
Ah bah là...
Attention, allez, on monte l'orchestre.
Bah non, mais là, c'est... Bon, évidemment, Django à la guitare, ça c'est fait. Si on a besoin d'un violoniste, on va prendre aussi Stéphane Grappelli.
Oui.
Alors là, le problème vient au piano, parce que là, au piano, il y en a un paquet que j'admire. Là, il y en a
Bill
plein.
Bill Evans.
Alors, j'aurais commencé carrément par... Moi, je commence carrément par Jean-Sébastien Bach.
Ah,
non, carrément
d'accord.
Par...
Okay.
Bach, Mozart, Chopin, déjà, j'adore. Rachmaninoff aussi, comme pianiste. Nat King Cole, Thelonious Monk, j'aime beaucoup.
Bill Evans.
Duke Ellington, Bill Evans, oui, pourquoi pas. Mais j'aurais pris quand même plus Nat King Cole. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme instrument ?
Il y a la batterie.
Saxo, j'aurais pris Charlie Parker. Pour moi, c'est le son le plus fou. Trompette, j'aurais pris Miles Davis, évidemment. C'est pas très original, même si j'adore le swing de Clark Terry. Il y a plein d'instruments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Et alors, au chant ?
Vivant aujourd'hui, pour moi, c'est Stevie Wonder. Mort, il y en a plein que j'adore. Bon, je parlais de Brassens, mais je le vois plus comme c'est un poète qui chante, quoi. C'est pas plus un chanteur, quoi. Mais j'ai toujours été fan de Chuck Berry. Bon, j'oubliais quand même Hendrix pour un petit coup de guitare électrique. Mais j'aime Elvis Presley, sa manière de chanter. Je suis quand même très très fan d'Elvis Presley. J'allais dire, j'aime beaucoup Henri Salvador, Nat King Cole. À un moment,
et puis alors, au cœur de cet orchestre idéal, il faudra convoquer sur scène, allez, votre père. Ça reste un vœu pieux de faire une scène avec Jacques Dutronc, ou c'est encore possible ?
Alors moi, si j'ai envie de... Moi, des fois, oui, j'ai essayé de lui dire, je lui dis, tu voudrais pas qu'on monte un spectacle à deux, on se marre et tout. Moi, c'est plus pour passer du temps avec lui et le voir, quoi, et vivre avec lui, que d'être sur scène aussi, évidemment, ça serait magique, mais je veux dire...
Et que vous répond-il ?
Je sais pas, je le laisse... La balle est dans son camp, quoi. Je lui ai dit, maintenant, il sait que je suis motivé. Après, des fois, il faut un peu le pousser. Mais moi, j'ai pas envie de le pousser. Quoi. Soit il a envie et moi, j'ai envie. Mais soit je vais pas le pousser. Je veux pas après être genre le mec... Parce qu'il est malin. Parce qu'après, si je le pousse et qu'il accepte, il va dire « Mais c'est toi qui m'as forcé. » Donc non, je ne me laisserai pas avoir par son piège satanique.
Bon, le nouvel album a pour titre « Frenchie ». Il libère vraiment les endorphines. À la tournée qui va commencer cet hiver, on va dire, à la tournée, s'est greffé récemment deux dates, n'est-ce pas ? La Cigale à Paris, les 2 et 3 octobre, avec plein de surprises qui sont en train de prendre forme dans votre tête et avec des virtuoses autour de vous pour que ces deux dates du 2 et 3 octobre à Paris, à La Cigale, soient absolument mémorables. Bon, l'été, vous le passez où, Thomas ?
Eh ben, écoute, si... Si on a des avions, parce que c'est un peu compliqué pour la Corse.
En Corse.
Mais en Corse, bah oui. La Corse.
Bon, vous penserez à nous quand vous irez vous balader dans le maquis.
L'été, il fait trop chaud.
Plein de parfums extraordinaires.
Il ne fait pas trop chaud pour travailler, mais il fait trop chaud pour marcher, l'été en Corse. Bon, pour moi.
On va méditer cette phrase. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir passé une heure avec nous. Merci infiniment et à très vite.
Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et Isabelle Morizet revient demain dès 15h sur Europe 1 avec un nouvel invité. Ce sera la journaliste, essayiste et réalisatrice Caroline Fourest pour son livre paru chez Grasset, Génération offensée. Et dans un instant, l'équipe est sauvage de Mathieu Noël, les meilleurs moments, avec notamment Thomas Dutronc puisqu'il était son invité jeudi. Europe 1.